Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Boudelux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Bonjour, ravi de vous retrouver pour Good Lux Paris, l'édition du week-end. Et vous le savez, désormais, Good Lux, c'est tous les jours de la semaine en direct entre 13h et 15h. Je vous retrouve en solo. Et quand le week-end arrive, enfin, je vous retrouve en duo avec mon camarade de toujours, Emmanuel Rubin, directeur éditorial des éditions Jaloux. Et Emmanuel, vous allez être content aujourd'hui puisque c'est tournée des bars. Mais attention, des bars à cocktails, bien entendu. Depuis quelque temps, on va dire depuis 5 ans, la France a rattrapé son retard en la matière. Vous n'avez que l'embarras du choix et le choix de l'embarras aujourd'hui. Alors, pour vous mettre au courant des dernières tendances, nous partagerons un verre dans un instant avec Eric Frossard. Il est le créateur de la Paris Cocktail Week, notamment. Michael Mass, il est le chef barman du nouveau Gravity Bar. Et Maxime Potfer, il est le bar manager de l'expérimental Cocktail Club. Mais tout de suite, les nouveautés de la semaine.
Good Lux Paris, l'édition du week-end, les nouveautés de la semaine.
Et Emmanuel, avant de faire la tournée des bars, je sais que vous l'attendez évidemment très impatiemment.
Ah bah oui.
On va commencer avec donc les nouveautés de la semaine. Et on vous nous emmène dans un café.
Alors, un café amélioré, on appelle ça une brasserie chic. Du côté du Musée de l'Homme, vous savez, on en a beaucoup parlé juste avant les fêtes, puisqu'il a été relancé, réinventé, très réussi. Et du côté donc du Trocadéro, dans la continuité de ce Musée de l'Homme, il a toujours eu un café assez célèbre à Paris qui s'appelait le Café de l'Homme. Alors, pourquoi célèbre? C'est vrai que tous les limonadiers de luxe s'arrachent l'emplacement. Pourquoi? Parce que c'est certainement l'une des plus belles vues de Paris. Mais vraiment, c'est un vertige, un cap, une péninsule, un pic, comme disait l'autre. C'est vrai que c'était assez éblouissant. Alors, on l'attendait parce que depuis 3 ans, finalement, comme le Musée de l'Homme était fermé, le Café de l'Homme était fermé. Il n'est pas trop mal relancé. Je veux dire par là que les nourritures, dans ce genre d'endroit, souvent, elles se font un peu piquer la vedette, kidnappées par le décor. Là, elles arrivent un petit peu, je vais pas dire à jouer jeu égal avec la Tour Eiffel, qui est le plus beau plat qu'on vous serve dans l'assiette, mais quand même. La seule chose, c'est qu'elles valent, vraiment, elles vendent chèrement leur peau. Un peu trop chèrement. C'est-à-dire que c'est vrai qu'ils ont fait un effort. Il y a 15 ans, dans ce genre d'adresse, on mangeait justement accessoires, alibi. Aujourd'hui, il y a un vrai travail sur les produits, des soldes de lieux formidables, mais c'est quand même toujours ce battage un peu usinaire des brasseries. Du coup, la sole a été superbe, mais un peu trop cuite. Tout est un peu à l'avenant. C'est pas très très grave. C'est juste qu'on aimerait que peut-être les prix baissent un ton et puis la cuisine se simplifie un peu les choses. Je trouve que servir des œufs en meurette, vous savez, c'est une cuisine très technique. C'est ces fameux œufs pochés sauce au vent dans ce genre d'endroit, c'est compliqué. Une fois sur deux, ils vont les rater à ce rythme-là. Il ferait mieux de faire un peu plus simple. Il n'empêche qu'ils ont fait un effort, on ne va pas leur reprocher. On attend beaucoup, bien sûr, de la terrasse au printemps prochain, parce que alors là, c'est plus la Tour Eiffel en tête-à-tête, c'est quasiment la Tour Eiffel avec laquelle on valse. Et la Tour Eiffel, mais quasiment, vraiment, on voit un bras de scène, c'est mieux qu'une carte postale. Si c'est une carte postale, elle est sonore. Donc ça, c'est formidable. D'autant qu'ils ont promis une terrasse, justement, un petit peu différente. Ce sera quasiment un état dans l'état. C'est-à-dire qu'elle aura sa carte particulière, sa cuisine particulière, une cuisine de plein air. Et puis même des animations un petit peu comme on fait, vous savez, sur tous ces esplanades, ce qu'on appelle les rooftops aux États-Unis. C'est vrai qu'ils ont une vie en soi, donc ce sera une terrasse qui aura une vie en soi. Mais on peut aller faire un tour, ou au moins, peut-être pas dîner complètement, mais prendre un verre. C'est pas mal, cette saison.
C'est aussi
c'est la thématique de l'émission, le Café de l'Homme. Allez, un joli retour.
Voilà. Et puis, la semaine dernière, on vous a parlé d'hôtels, beaucoup, beaucoup d'hôtels, puisque c'était une spéciale renouveau de l'hôtellerie parisienne qui n'en finit pas de se renouveler, d'ailleurs. Et parmi ceux-là, on avait oublié les chaînes, et les chaînes qui font des choses plutôt intelligentes. Là, c'est la chaîne M Galerie de Accor Hôtel, qui ouvre l'Échiquier Opéra, 38 rue de l'Échiquier, c'est dans le 10e arrondissement de Paris, on est du côté des grands boulevards, là aussi, qui fait partie de tous ces grands quartiers qui bougent autour de l'hôtellerie. L'agence à qui on doit ce renouveau entre art nouveau et art contemporain, c'est Le Coadic Scotto. Pour vous donner une idée, justement, parce qu'on va beaucoup parler de bar, aujourd'hui, le bar, on est dans un style jardin d'hiver, plantes, mobilier bleu marine, des petites dorures, du rotin. Voilà, c'est vraiment un petit peu ce côté art déco, sous la verrière, on aime, on n'aime pas. Les chambres assez simples, avec des gros rideaux rouges, il y en a 88. Plutôt réussi.
Du fonctionnel amélioré.
Oui, exactement. Je dirais du fonctionnel amélioré en attendant de tester vraiment. Vous irez peut-être voir le bar, le resto. Il y a peut-être des choses à voir, en tout cas sur cet Échiquier Opéra Paris M Galerie. Alors là, ça fait toujours des noms très longs. 38 rue de l'Échiquier dans le 10e arrondissement de Paris. Allez, Web de Luxe.
Goût de Luxe Paris, l'édition du week-end. Web de Luxe.
Et on accueille Sandy Cournoy. Bonjour Sandy. Alors, sur le web, cette semaine, on commence par se balader du côté de la place Vendôme.
Oui, direction la maison Jobalet, maison de joaillerie, qui se développe en matière de digital. Et pour ce genre de maison, de joaillerie, eh bien, c'est rare. On a un service de personnalisation de bijoux en ligne. Donc, on va véritablement pouvoir réaliser sa bague en choisissant la parure, la couleur de l'or, la pierre qu'on met dessus. Si c'est un diamant, en fonction de son budget, on peut choisir la couleur, le poids. Enfin, vraiment, on décide de tout. Ce qui est vraiment bien fichu, c'est que la maison va vous faire une bague en cire 3D avec un faux diamant dessus, si vous voulez. Vous l'envoyez chez vous, vous essayez, vous vérifiez que le modèle vous convient et vous renvoyez ce modèle en cire 3D à la maison pour faire réaliser le bon, le définitif. C'est plutôt pas mal.
Et c'est vrai que jusqu'ici, c'était essentiellement la maison Gemio, mais qui s'est lancée effectivement sur Internet, qui monopolisait un peu, qui trustait un peu cette joaillerie sur Internet. Et voilà, donc les grandes maisons
sont... Elle est suivie aussi par ces grandes maisons-là. Voilà. Et ça, c'est bien.
C'est Jobalet, J-A-U-B-A-L-E-T. Allez, on reste dans les beaux bijoux.
Dans les beaux bijoux, alors, vous le saviez, il y a Fossil qui a annoncé tout plein d'objets connectés à venir là, dans l'année 2016, dont deux montres intelligentes. Le créateur chinois Weiwei, c'est un peu particulier à dire, lui, il n'attend pas, ça y est, il en a proposé deux. Il y a deux modèles féminins, il en avait fait des montres intelligentes pour hommes. Là, c'est un partenariat avec Swarovski. Donc, on a véritablement des montres intelligentes, mais qui sont esthétiques. Il y en a une qui est un petit peu plus discrète, un autre un petit peu plus tape à l'œil. Elles ont des noms, hein, ces montres. C'est l'Elegant et la J-Well. Elles font tout. On fait tout. On écoute de la musique avec. On a une commande vocale. On reçoit ses mails, ses textos. Moi, ça me choque toujours un petit peu, ce genre de choses avec une montre. Mais bon, pourquoi pas? Voilà.
Et puis, autre chose.
J'ai la même chose, c'est il y a quelques années, les téléphones.
Et bientôt, il n'y aura plus besoin de rien.
Fait tout sauf téléphoner.
Et puis une dernière chose, chez Dior.
Chez Dior, ouais, c'est le nouveau film de la campagne Dior Homme Intense. Alors, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de films comme ça et ça sert à rien de parler de tous les films de toutes les marques, sauf que celui-ci, il est particulièrement joli. C'est un film en noir et blanc qui a été réalisé par Peter Lindbergh avec l'acteur britannique Robert Pattinson. Vous savez, c'est lui qui avait joué dans Harry Potter.
Il a bien changé depuis.
Il a bien changé. Il est devenu homme. Voilà, très beau film à découvrir pour le lancement de ce produit. On y voit des citations de James Dean qui, je trouve, font un bel écho à cette nouvelle année qui débute. Vis comme si tu allais mourir demain, rêve comme si tu allais vivre éternellement, aime vraiment, la vie est belle, ça fait du bien.
Mais je vais pas dans Harry Potter, regarde Pattinson.
Si, c'était Cédric Diggory. Bah oui, c'est ce qu'on dit, il est devenu homme.
D'accord, c'est Cédric Diggory dans Harry Potter.
Ouais.
Je sais pas si
merci beaucoup.
Merci à vous.
À la semaine prochaine, vous nous ferez réviser nos classiques de cinéma. Hein. Merci beaucoup à vous. Allez, Emmanuel, une petite gourmandise.
Eh bien, on va pas continuer, on va poursuivre avec les bonnes habitudes désormais sucrées, et notamment celle des pâtisseries dédiées, j'allais dire des pâtisseries un petit peu qui jouent sur nos obsessions, sur l'addictif. Alors, on a eu comme ça la maison dédiée à la chantilly, la maison dédiée à la chouquette, la maison, j'en passe
les
meilleurs.
Les choux, les éclairs, c'est
que ça,
et tout ça.
Il y en a une qui a eu l'idée de rebondir sur un grand classique pâtissier, c'est-à-dire la meringue, ça s'appelle la meringuée. C'est installé 21 rue de Lévis. La rue de Lévis, c'est l'une des rues les plus gourmandes de Paris, 17e arrondissement. Et ma foi, vous savez, en photographie, on aime bien parler de, quand on faisait de l'argentique, on aime bien, et qu'on développait les photos, il y avait un fixateur. La meringue, c'est vrai que c'est un formidable fixateur de gourmandise et de sucré. Et justement, ils ont compris qu'il fallait une très belle meringue. Alors, une belle meringue, c'est très simple. Faut pas que ça soit croquant ni croustillant, faut que ça soit craquant.
Ne nous faites pas croire que vous fabriquez des meringues, mais je peux dire juste une chose, parce que c'est aussi beau que bon. Ces gâteaux meringues, on les a testés à la rédaction, et autant vous dire qu'avec tous les fruits dessus, c'est un peu impossible à découper, hein, n'essayez pas.
Justement, mais parce que la meringue, c'est pas grave. Elle doit être belle, c'est vrai, crissante, craquante, et puis fondante à l'intérieur.
C'est frais,
et après, une fois que vous allez briser, c'est pas grave, parce que vous allez manger justement tous ces petits morceaux. Ils ont eu l'idée justement d'en faire un fixateur, une base sur laquelle ils appliquent simplement de la crème fouettée, je vais y arriver, et des fruits frais, et des fruits de saison. Et donc c'est très réussi. Ils s'amusent aussi un petit peu à détourner quelques classiques. Là, en ce moment, il est meringue des rois. Là, c'est un petit peu tiré par les cheveux, mais c'est une belle recette, c'est vrai que c'est bien fait. Moi, j'ai bien aimé.
Voilà, ça change.
Allez, addictif. Hein.
Allez, on termine rapidement. Vous faites le sucré, je fais le salé. On fait les choses à l'envers par l'objet de la semaine. L'objet de la semaine, ce sont des bocaux. Non pas des bocaux de ma grand-mère, quoi que ça pourrait, mais c'est Monsieur Appert. En fait, c'est une nouvelle marque de bocaux. Ce sont deux personnes, Patrick Alzière et Philippe Boissel, qui ont travaillé avec des producteurs locaux de chez eux, la Bretagne, monsieur, le centre culinaire contemporain de Rennes. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés voir tous ces gens qui font de l'agriculture raisonnée. Ils ont pris leurs beaux légumes, leurs beaux fruits. Ils ont dit, puisque c'est ça, évitons de les perdre. Et puis, faisons en profiter tout le monde tout au long de l'année. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il y a trois gammes. Le coup de maître du jardinier, donc là ils sont tels quels vos légumes, juste en bocaux, comme ça, tout simplement, sortis de terre, ni cuisinés, là. Ensuite vous avez le coup de théâtre du cuisinier. Et là il réinvente un peu le légume cuisiné. Et par exemple vous avez coco de Paimpol, oignon, carotte.
Mais c'est déjà de la recette, d'accord.
C'est déjà de la recette. Vous pouvez avoir aussi des pommes de terre avec d'andouilles de Guéméné. On est quand même en Bretagne. Il y a plusieurs recettes comme ça, fort sympathiques. Et puis, il y a le petit coup de pouce de l'épicier. Là, qu'est-ce que c'est? Ça va être, par exemple, le chutney, la sauce tomate. Et vous avez l'huile de chanvre aussi, par exemple. Le chutney, cerise, oignon,
avec tout ce qui va assaisonner, condimenter, surligner la cuisine.
Et avec des vraies recettes inventives. Si je vous dis le petit chutney, cerise, oignon, safran.
Ah, si c'est bien fait, c'est une bonne idée, ouais.
Voilà.
Et il y a tout un travail aujourd'hui à faire sur les pickles, les chutneys. C'est vrai que c'est plutôt malin. En plus, j'aime bien le titre Monsieur Appert. Ça renvoie au créateur de la conserverie. C'est joli,
exactement.
C'est bien fait.
Monsieur
Mais
Appert,
on va en parler de cette marque. Parce qu'effectivement, pour l'instant, effectivement, tout ce qui est. On parle souvent du sourcing, la traçabilité, ils travaillent vraiment les meilleurs. Ça va devenir, à mon avis, une conserverie de luxe.
Et voilà. Et on le retrouve dans toutes les bonnes épiceries.
C'est un vrai coup de cœur, bravo.
Et sur le site monsieurappert.com. Allez, on y va. Tout ça, ça nous a donné soif. On va boire un petit coup dans les bars à cocktails. À tout de suite.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Bout de Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et à l'occasion de la Paris Cocktail Week qui débutera le 23 janvier prochain, un gros plan sur la scène parisienne des bartenders dans Goût de Luxe. Nous sommes en compagnie d'Éric Fossard, bonjour.
Bonjour.
Créateur entre autres de la fameuse Paris Cocktail Week. Et vous êtes venu accompagné de représentants de la scène parisienne du cocktail, Michael Mas, bonjour.
Bonjour.
Chef barman au Gravity Bar, c'est rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement. C'est un des petits derniers de cette génération. Maxime Potfer, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes bar manager, c'est comme ça qu'on dit?
On peut dire ça comme ça.
C'est ça, l'expérimental cocktail club. Ça, c'est un petit peu les pionniers de cette nouvelle vague des bars à cocktails. Mais vous êtes tout jeune, représentant de cette nouvelle génération, biberonné au cocktail, si j'ose dire, ou presque. On va voir pour les uns et les autres. Cette Paris Cocktail Week, Éric Fossard, c'est la deuxième édition.
Tout à fait, c'est la deuxième édition.
Allez, 40 bars, 10 restaurants, 10 événements insolites, 10 masterclass, une académie de cocktails, et tutti quanti. C'est-à-dire qu'il y a énormément de choses. Quand je vois 40 établissements, il y a 10 ans, on vous vous aurez dit 40 bars, il y en a même plus, c'est ça, vous allez me dire?
Oui, en fait, il y en a 50.
En fait, il y en a 50, donc c'est ça. S'il y a 10 ans, vous avez dit ça.
Ça aurait peut-être été difficile de les trouver, les 50, il y a 10 ans, je pense.
Aujourd'hui, il a fallu faire un choix, presque.
Oui, en fait, malheureusement, on est même obligé d'en refuser, parce que c'est juste pas possible de tous les inclure. Et plus la communication se met en route, et plus l'engouement même des établissements se fait ressentir, on est obligé de définir un chiffre, et 50, c'était...
Juste pour préciser, c'est quoi un bar à cocktail? Il suffit de servir 2-3 cocktails? Est-ce que finalement, c'est comme tous les bars? Qu'est-ce qui va définir le bar qui rentre dans la Paris Cocktail Week et qu'on appelle bar à cocktail?
Déjà, c'est... une offre avec un savoir-faire. Ces barman, c'est des professionnels. Ils ont une créativité, une connaissance, un savoir-faire, des tours de main. C'est ça qui est mis en avant. C'est aussi, évidemment, accueillir les clients, comme dans n'importe quel type d'établissement, comme un café ou une brasserie. Mais leur offre, elle est plus tournée vers des choses qui sont des boissons mélangées avec un savoir-faire qu'ils mettent en pratique au quotidien. C'est ça qu'on recherche dans... les bars à cocktails.
Alors, avant on va voir, hein, on en a des deux parmi nous, mais avant de comprendre bien cette nouvelle génération, quand on crée comme ça un festival quelque part dédié aux cocktails, c'est qu'on attend du public. Si c'est la deuxième édition, on peut imaginer que la première a pas trop mal marché, autrement il n'y aurait pas eu de deuxième.
Très bien fonctionné.
C'est ça qui, quand vous êtes dit on va créer cette semaine, cet événement autour du cocktail, c'est que vous sentiez que désormais à Paris, qu'il y a toujours eu un train de retard au niveau du cocktail, aujourd'hui c'était fini, elle raccrochait bien au wagon, j'allais dire, de l'international du cocktail, là où les pays anglo-saxons ont véritablement cette culture.
Alors, c'est exactement ça. En fait, on s'est rendu compte, ça pointait déjà son nez depuis quelques années, mais on se rendait compte que la scène parisienne, donc ces bars à cocktail parisiens, avaient de plus en plus une aura au niveau international. Enfin, on a d'autres activités qui sont plus liées à une interaction avec les professionnels, les barman. On organise un salon pro tous les ans.
Cocktail Spirit.
Et on voyait que de plus en plus de barman, de gens influents au niveau international, devenaient de plus en plus intéressés sur la scène parisienne. De plus en plus maintenant, des bars à cocktails et des barman français gagnent des concours internationaux, sont dans la liste des meilleurs bars du monde. On voit que maintenant, cette scène parisienne existe. Et en fait, on faisait le constat qu'il y avait un déficit entre cette perception à l'étranger de la qualité de la scène parisienne et cette compréhension des Parisiens sur l'offre qui leur est offerte dans les bars à Paris. Et on s'est dit, il faut qu'on crée quelque chose pour promouvoir cette offre aux Parisiens, vu que maintenant elle est plutôt reconnue au niveau international.
Allez, on va commencer notre petite tournée. Alors bien sûr, on rappelle dès maintenant, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. On consomme avec modération.
Ça.
Voilà,
comme ça, alors là, c'est parti. Hein.
Et d'ailleurs,
on va voir qu'on n'est pas obligé de faire des cocktails à base d'alcool. Et c'est une vraie tendance aussi. L'Experimental Cocktail Club, je disais 2007.
C'était, 2007, ouais, c'était le tout début.
Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, c'est quoi l'ambiance? C'est quoi le pitch quand on est à l'Experimental?
L'ambiance, ça va être un cadre feutré. Ça va être des sirops maison, des jus maison, une atmosphère qui n'est, on va dire, malgré toutes les images qu'on peut en avoir, qui n'est absolument pas prise de tête, on a beaucoup de clients qui rentrent chez eux après le travail, enlèvent leur costume et viennent boire des verres chez nous. Donc, on a vraiment une grosse mixité. On a énormément d'étrangers, donc beaucoup de cultures en même temps, beaucoup d'échanges. Tout le monde parle ensemble. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très dynamique et en même temps très 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 intéressant.
37 rue Saint-Sauveur.
Oui, on rappelle 37 rue Saint-Sauveur. Simplement, c'est vrai. Vous le disiez, il y a 9 ans pour l'Experimental Cocktail Club. Mmh. Aujourd'hui, c'est presque une institution et on peut dire, si on regarde le paysage. C'est pas vous qui allez me contredire, c'est un peu cette adresse et ceux qui l'ont orchestré aujourd'hui, c'est un peu les cadors sur la scène parisienne qui ont bousculé les choses quand même.
Ah, bien sûr.
C'est vraiment aujourd'hui, du coup, vous, jeune barman qui prenez les destinées de ce expérimental, on a quand même un peu le poids parce que c'est presque une institution de cette jeune scène. Ça a été la première. Ouais, si on parlait en termes de gastronomie, quand on parle de bistronomie, on va citer, je sais pas moi, un Candebord qui a été le premier chef à bousculer les codes de la bistrotte. On pourrait citer aussi Gnacchi à sa manière avec le château. Brillant. Quand on est à la tête de l'expérimental, on n'a pas un peu la pression parce que maintenant vous avez d'autres
énorme.
Qui poussent.
Vous pouvez pas imaginer, c'est énorme.
Ah, est-ce que vous avez toute la scène, on va le voir avec le Gravity qui vient de vous bousculer.
J'ai la chance d'être à côté de ce monsieur qui m'a donné envie de travailler là et de venir boire des verres là aussi. C'est pour ça que j'ai voulu travailler là, c'est pour ça que j'étais aussi un très bon client avant de devenir un employé. C'est parce que c'est un endroit mythique, tellement emblématique, qui dégage des choses. Outre les verres, outre tout ce qu'il peut y avoir là-bas, c'est une vraie énergie qui se transmet de par les personnes qui ont travaillé depuis toujours. C'est quelque chose qui a juste pas de mots, il faut y aller pour comprendre
et
ça.
Justement, est-ce que la clientèle, ça on va vous la poser à tous, la question, est-ce qu'elle a pas aussi beaucoup évolué? Est-ce qu'elle n'est pas plus exigeante aujourd'hui? Il y a quelques années, quand on rentrait dans un bar à cocktail, on n'était pas très très doué, on savait pas trop, on était parfois même un peu impressionné. Aujourd'hui, j'ai l'impression que ça change, que les gens sont plus audacieux, mais dans le même temps, qu'ils sont plus exigeants. C'est-à-dire qu'ils connaissent mieux, ils commencent en tout cas à mieux connaître, et notamment avec le travail que vous pouvez faire à travers vos événements. Donc vous n'avez pas là aussi une pression avec une clientèle plus qui cherche un petit peu à être bousculé?
Je pense que cette pression, on l'a toujours un petit peu eu parce qu'on a eu cette chance d'avoir des clients étrangers depuis toujours dans ce bar. Donc on a, contrairement à un public français qui est en train de se créer une culture cocktail qui n'existait pas forcément malgré le fait qu'on est littéralement le pays qui produit le plus d'alcool. On produit du Calvados, on produit du cognac, mais c'est pas connu et c'est pas encore dans les mœurs, malheureusement. Ça a disparu un petit peu. On avait des Américains qui venaient tous les jours et qui demandaient des cocktails qui étaient assez pointus avec vraiment une attente. Ça nous donnait déjà un défi. Maintenant, le public français, on est encore un peu dans cette partie pédagogique où on doit les entraîner vers des choses qu'ils ne connaissent pas, vers des alcools qu'ils n'ont pas forcément l'habitude de boire. Donc, on est vraiment entre deux. On peut avoir d'un côté quelque chose où on va avoir de grosses, grosses, grosses attentes et de l'autre où on va vraiment essayer de taquiner un petit peu sur ces bases qui sont en plein mouvement.
Fondamentaux.
Alors,
exactement.
On rappelle effectivement que derrière l'Experimental Cocktail Club aussi, il y a maintenant le Prescription Cocktail Club, le Ballroom, l'Hôtel Bachaumont sur lequel vous bossez, le Matisse, le Grand Hôtel Picale sur lequel vous bossez aussi, Compagnie des Vins Surnaturels et le Beef Club, j'ai oublié personne pour
si,
l'instant.
Parce qu'ils relancent le Fish Club.
Voilà, et le Fish Club.
Et c'est vrai qu'ils sont, ils sont présents à Londres, je crois.
On est à Londres, on est à New York, on est à Ibiza. Que ce soit sur des bars à cocktails,
c'est aussi une sacrée réussite d'entreprise. Il faut le saluer.
Et sauf que derrière, voilà, il y a des petits jeunes qui arrivent. Mmh. Des petits jeunes, comme le Gravity. Donc
c'est le bar qui est un petit jeune, le Gravity. Le barman, il a déjà de l'expérience. Il est avec nous.
Michael Mass, alias Mika, rue des Vinaigriers, dans le 10e. On va commencer justement. On plante le décor.
Ouais.
Du bois.
Ouais.
Étonnant, dans un bar à cocktail.
Oui, enfin, on va dire cette teinte de bois, parce que le bois en lui-même, on l'a quand même pas mal vu.
Après, nous, c'est vrai que c'était notre façon à nous de refléter notre ADN au Gravity. On a, on va dire, cette inspiration et ces goûts pour les sports alternatifs, pour tout ce qui est culture, on va dire, qui puisse partir et puisse s'apprendre dans la rue. Ce côté simple, assez simple de rencontre. Donc les produits bruts, type le bois, type le béton, type l'acier, pour nous, c'était évident.
C'est vrai que voilà, au plafond, il y a quasiment une vague.
Ce travail de courbe, ouais, qui colle totalement à notre univers. C'était,
et là
c'était
aussi, c'est important. Aujourd'hui, on voit que les codes esthétiques du bar, on parlait du bois. Le bois, c'était un vieil accompagnateur des grands bars. Ouais. C'était du bar un peu sombre, un peu acajou,
un peu club.
Là, aujourd'hui, est-ce que le fait de bousculer aussi les designs, comme on l'a vu dans certains restaurants, la part du décor a pris son importance il y a depuis 15-20 ans. Est-ce que c'est important aussi aujourd'hui, quand on arrive dans un bar, qu'il y ait une identité comme ça, esthétique, forte?
Oui, je pense que c'est important parce que ça crée un univers et c'est encore une fois c'est l'occasion aussi pour les gens, donc en l'occurrence Marc et moi et Richard, les trois associés, d'exprimer vraiment ce qu'on ressent et ce qu'on veut partager avec les gens, plus que de s'enfermer, comme on pourrait dire, dans un pur bar à cocktail, donc en rappelant ces codes-là d'objets chinés, de boissons, de vernis, d'assumer aussi le fait que voilà, nous on aime cet univers-là, mais on veut le vivre d'une façon différente avec les gens, leur apporter une autre approche, peut-être un peu plus de lumière.
Et du coup, c'est intéressant, c'est peut-être ce que disait Emmanuel aussi par rapport à la clientèle tout à l'heure, c'est peut-être pas tout à fait la même clientèle dans vos deux établissements, ou peut-être je me trompe.
Je pense qu'on a une clientèle commune à tous les bars à cocktail, c'est-à-dire les gens tout simplement qui sont curieux sur le cocktail et
cocktailista, il va falloir inventer.
Ouais, ces gens qui suivent vraiment le cocktail pour l'amour du mélange, à même titre que ça existe dans les restaurants. Et après, chacun trouve, justement, c'est ce qui est bien aujourd'hui, c'est que chacun trouve son port d'attache. Les gens là ressentent aussi un univers, on partage des choses en commun avec nos clients, et après chacun va devenir plus ou moins régulier de tel ou tel bar, dû à l'ambiance, dû au barman et à l'atmosphère qu'on a créée.
Alors on va regarder ce qui se passe dans les verres dans un instant, mais Eric Fossard, effectivement, vous me disiez 40, même 50 établissements qui participent, et chacun justement avec son identité, c'est ça aussi, c'est
tout
que
à fait.
Et c'est compliqué, effectivement, c'est comme dans les restaurants, aujourd'hui c'est pas forcément du marketing concept, mais chacun a une véritable identité, ce sont des bars à cocktails.
Exactement. Mais enfin, c'est aussi facile à comprendre. C'est normal que chacun essaye d'avoir sa propre identité, sa propre image et se différencie de son voisin ou de son concurrent, à apporter quelque chose de différent.
Est-ce qu'il y a des grandes familles?
Il y a un peu des écoles, en fait, on se rend compte que la plupart, enfin sur certains, ils ont été formés par les mêmes, ou ils sont passés dans les mêmes établissements. Généralement, c'est comme dans la cuisine, les expériences, elles marquent, elles s'additionnent et elles finissent par donner une identité propre. Et bah, c'est la même chose.
D'ailleurs, vous parlez vous aussi de ce que vous allez essayer de mettre en scène durant cette Cocktail Week à Paris, mais de tendance. Alors, ce serait quoi actuellement les tendances forte. On va demander à nos amis barman dans quelques instants, mais vous, qui êtes un petit peu comme cela un observateur, qui est un petit peu en regret, donc à distance, qui voit plus le panorama, ce serait quoi les tendances fortes?
Alors c'est très intéressant, parce que justement, pendant la Paris Cocktail Week, étant donné qu'on demande deux recettes, deux créations par établissement, une avec alcool et une sans alcool, on se retrouve avec une sorte de plan à date de un peu on est né où sur la créativité de chacun, mais aussi quand on les met tous ensemble. D'ailleurs, sur notre site internet, on a les photos de tous les cocktails mis les uns à côté des autres. Ça nous donne une bonne vue d'ensemble de c'est quoi, à l'heure actuelle, la créativité sur ce domaine. On se rend compte, et ça a évolué par rapport à l'année dernière, c'est aussi intéressant. C'est pas la même chose que l'année dernière. Ils partent sur des choses différentes. Il y a des cocktails qui sont, je trouve, moins alcoolisés qu'ils n'étaient l'année dernière, sur l'offre globale, au final. C'est des choses qui sont, à mon avis, plus accessible que ça ne l'a été dans le passé. On se rend compte que on va chercher des choses inattendues. Lorsqu'on reçoit les recettes, des fois, il y a des ingrédients, je ne les connais même pas moi-même. Je suis obligé d'aller googler, voir ce que c'est.
Mais c'est le secret, ça.
Est-ce que justement, ça, c'est parce qu'on peut faire aussi comme reproche, et que comme la mixologie devient aujourd'hui, je n'allais pas dire une science, mais pas loin, en tout cas, qu'il y a un côté véritablement des tribus, des gens qui cherchent. On parle beaucoup de créativité, à la force de créativité, est-ce qu'on va pas trop loin finalement à chercher à se démarquer en trouvant la saveur inattendue? attendu mais qui n'apporte rien finalement au cocktail. Est-ce que c'est pas le risque de passer du précieux au ridicule?
Alors je pense que ça, c'était des dérives qui ont certainement, ça s'est passé dans le passé où justement il y avait une superposition de saveurs, des fois un petit peu pas vraiment bien assemblé, et il y avait beaucoup d'ingrédients. On se rend compte que la liste des ingrédients, elle se réduit généralement.
De simplicité.
Avec de la simplicité, on arrive à faire des choses très belles. Souvent, moins c'est mieux. Je pense que, en fait, non. La diversité, elle est cherchée pour trouver des expériences gustatives différentes, mais pas pour avoir de l'extravagance.
C'est ce qu'on va voir avec vous êtes quand même les mieux placés, maintenant. Messieurs les barman. On fait une petite pause sur BFM Business et on se retrouve tout de suite pour Good Luxe.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Luxe Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Et des Good Luxe de barman aujourd'hui à l'occasion de la Paris Cocktail Week qui débutera le 23 janvier prochain. Nous sommes toujours en compagnie d'Eric Fossard à qui on doit cette Paris Cocktail Week, de Mickaël Mas, chef barman du Gravity Bar, et Maxime Potfer, c'est le bar manager de l'expérimental Cocktail Club. Messieurs, donc on s'est arrêté sur les recettes obligatoires que l'on va trouver dans les 50 établissements qui vont participer à la Paris Cocktail Week. À l'expérimental Cocktail Club, on va trouver quoi comme cocktail?
Alors, nous allons travailler avec du Citadel, qui est un gin français. L'idée, c'était d'apporter beaucoup de fraîcheur et changer un peu le pas, sachant qu'on est... L'idée de la Cocktail Week, c'est quand même de faire découvrir des cocktails à des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de venir nous voir. Contre-pied, on est parti sur du poivron et de la coriandre. Donc un jus de poivron et coriandre, vraiment avoir un côté très frais, un côté beaucoup plus léger en alcool, comme on disait tout à l'heure, afin de faire sortir les notes florales du gin à travers la coriandre et le poivron.
Alors là, deux tendances qui ont l'air quand même fortes, toujours celle de ces alcools beaucoup plus sourcés, beaucoup plus sélectionnés. Alors on parle d'alcool premium, c'est toujours vrai ça? On voit que vraiment les barman, ils nous sortent des bouteilles, des marques, des distilleries qu'on n'attendait pas. Faites un vrai travail d'entête, tout ça, avant même que de composer vos cocktails.
Je pense que c'est une des meilleures parties du métier au final.
C'est une géographie qui s'ébrouille.
Exactement. Comme on disait tout à l'heure, il y a un nombre de distilleries cachées en France ou oubliées qui est absolument fantastique. On peut en citer quelques-unes, mais à Brive-la-Gaillarde, rien qu'en prenant le train quelques petites heures, on arrive, il y a des distilleries qui sont là depuis 150 ans, troisième génération, les gens sont complètement fous.
D'ailleurs, il y avait un site français qui s'amusait plus avec les distilleries oubliées, les françaises distilleries en Écosse, à trouver des pièces comme cela de whisky qui avaient disparu, qui marchent très bien.
Mickaël Mas, justement, pourquoi on a l'impression de redécouvrir les alcools français? Parce qu'effectivement, ces distilleries
oubliées... Que le gin soit pas tout à fait français.
Oui, mais... Mais en tout cas, c'est vrai qu'on redécouvre même les alcools vintage, quoi, la Suze, le Picon, que sais-je, enfin, toutes ces choses-là totalement oubliées. Pourquoi vous aimez travailler ça?
Moi perso, j'aime le faire par goût personnel, parce que par histoire, parce que mes grands-parents ou mes parents ont consommé ce genre de choses, donc ça c'est des produits un peu ancrés. Après, je pense qu'on a connu une mouvance aussi vers ça, les barman ces derniers temps, avec un gros retour, donc il y a quelques années maintenant, de tout ce qui est le bar, c'est-à-dire les cocktails style speakeasy. Donc on retravaille des produits, des recettes, ou les produits type les vermouths, enfin tous ces apéritifs à base de vin ou autres rentrent énormément dans la composition. Donc je pense que ça nous a poussé aussi, nous, à redécouvrir ce genre de produit, à s'y réintéresser. Après, il y a un côté qui n'est pas négligeable, c'est aussi le taux d'alcool, mine de rien. Ça permet, comme on disait tout à l'heure, de faire aussi des cocktails plus légers, d'avoir une vraie intensité aromatique, parce que quand on part sur des infusions ou des distillations de racines ou de plantes, on a quand même des saveurs très franches, très marquées. Et en plus, le vin et cette base de vin dans les apéritifs, c'est un très bon liant à un cocktail. Quelque chose qui apporte une vraie longueur ou un support sur la dégustation. Et ça permet de jouer un petit peu autrement aussi sur l'équilibre du cocktail et sur le rendu au palais.
Moi, je trouve ça. On rappelle que c'est juste à consommer avec modération.
Oui, peut-être, mais c'est très juste ce que vous dites. Et c'est plus, sincèrement brillant, parce qu'il n'y a pas un côté vintage là-dedans. C'est vrai que ces vieux alcools, comme on dit, un peu rétro, aujourd'hui ouvrent un champ aromatique tout à fait neuf et qui correspond bien à l'époque. Et en plus, c'est un joli fixateur, je trouve, pour les cocktails. Totalement. Parce que c'était toujours les mêmes bases, un peu whisky, gin, champagne. C'est bien, ça reste fort. Mais là, c'est quelque chose qui parle à l'époque. Il n'y a pas simplement le côté vintage. C'est vrai que ce sont des vins aromatisés, vins cuits. Et ça ouvre des champs aromatiques, des champs des possibles, même des gourmandises de cocktails. Puisqu'on le voit aussi, beaucoup de travail avec des chefs, de plus en plus dans vos bars, il y a des assiettes, un accompagnement culinaire, et ça fonctionne drôlement bien, alors que franchement, travailler parfois des alcools ou des cocktails à base de whisky, whisky ou de gin et un plat qui accompagne, c'est difficile.
C'est compliqué.
Là, tu es quand même dans des vins cuits, des trucs plus structurés qui accompagnent bien.
Mais Michael Mas, la recette du Gravity, alors Gravity. Pour la Paris Cocktail Week.
La recette du Gravity, bah, du coup, elle sera vraiment dans cette lignée-là. Ce sera une mise en avant d'une liqueur de plantes, la bénédictine, qu'on va travailler avec un nouvel alcool de pomme, un peu sur le même principe qu'un Pinot des Charentes, mais axé sur la pomme exclusivement. Donc on va rejoindre vraiment la Normandie là pour le coup sur ces deux produits, et on va jouer avec un peu de madère et d'une vodka infusée au capre. Donc voilà, le cap va apporter un peu de
sucré salé.
Ouais, côté un peu salin, et puis surtout c'est une fin de bouche du coup qui va être discrète, mais qui va un peu interloquer, qui va permettre de faire découvrir aussi des produits un peu moins communs. Mm-hmm. On va dire aux gens.
La bénédictine, faut aller à Dieppe, je crois que c'est à Dieppe, hein.
Fécamp.
C'est Fécamp, ouais. Avec un lieu où est toujours distillée la bénédictine, absolument dingue. Faut avoir vu dans la distillerie bénédictine. Découvrir la distillerie de la bénédictine, c'est un chef-d'œuvre architectural, c'est une folie, c'est complètement dingue. Vraiment. Pour l'alcool, c'est autre chose.
Et alors effectivement, aujourd'hui, bar, restaurant, bar, on a l'impression que vous accordez presque autant d'importance à ce que vous allez servir à manger, à déguster avec le cocktail.
Ouais, c'est pareil, je pense que c'est un amour, on est tous, enfin dans la plupart, moi je connais très peu de barman qui aiment pas manger, comme je connais très bon de très bons cuisiniers qui aiment, c'est rare ceux qui n'aiment pas boire, en tout cas déguster.
Ils sont pas si bons cuisiniers que ça, généralement,
dans ces cas-là. Ça dépend à quel moment on les rencontre. Mais c'est vrai que je pense que c'est une formule qui, je vais pas vous dire c'est l'avenir, mais c'est en tout cas quelque chose qui fonctionne et qui a de l'avenir, tout simplement parce que les gens aussi aujourd'hui n'aiment plus, ont envie aussi de trouver tout sur le même endroit, qu'il y a un vrai jeu qui se crée entre la cuisine et le bar. Il y a des produits qu'on peut découvrir, des façons de faire. Enfin, moi, par exemple, je vois la semaine dernière, entrer dans la cuisine, le chef avait fait une préparation à base de moutarde à l'ancienne et de clémentine rôtie. Ben, quand on goûte ça, c'est des choses qu'on a envie, nous, d'exploiter en cocktail derrière aussi. Donc, c'est clairement complémentaire.
Et c'est vrai que ces bars s'associent avec des chefs qui ne sont pas des demi-pointures. Ce sont des vrais chefs, des bons chefs, qui en plus travaillent un genre qu'on appelle le tapas, c'est-à-dire les petites assiettes, bon, ça pourrait être des pirochki, des askouski, ce que vous voulez, les antipastis. Donc ils sont sur des formats courts qui correspondent bien aussi à l'époque. Et c'est vrai que là, le dialogue s'instaure très très bien, parce que là où longtemps dans les bars, bah, tu avais des mauvaises cacahuètes, des mauvaises olives, oui, et voire des chips ratés, là maintenant tu as vraiment une proposition culinaire, mais travaillée en conséquence.
Non, ça vraiment paraît pour naturel, mais... Maxime Potfer, comment on faisait les accords mets vins, on se dit, mais comment on pouvait encore nous offrir des chips et des cacahuètes avec un superbe cocktail?
C'est vrai. Faut-il proposer quelque chose à manger?
Nous, on est
un petit peu une exception parce qu'on n'a pas vraiment la place. On est vraiment tout petit. Sincèrement, on propose vraiment aux clients d'aller boire un verre, enfin manger quelque chose dans le quartier, et de revenir nous voir s'ils veulent. On peut leur garder une petite place avec plaisir.
Plutôt que quelque chose qui colle pas.
Plutôt que quelque chose, on est dans la conviction, on se donne tellement de mal pour faire nos sirops, pour préparer des cocktails de qualité et des belles compositions, que ce serait complètement antithétique d'ouvrir un sachet de jambon et le mettre sur une assiette.
Mais aussi, une des grandes tendances, on l'a un peu évoqué, c'est la saison. Mais vous le dites, préparer nos sirops, nos jus. Mmh. Il y a aujourd'hui, désormais, dans le bon mixologiste ou le manuel du parfait petit mixologiste, pas simplement savoir bien sourcer les alcools, les assembler, les doser, ce qui est l'art du cocktail, mais aussi de le préparer. Vous avez le côté quasiment cuisinier. Là, préparer vos jus, ça veut dire quoi, préparer ses jus?
C'est le fondement même. C'est le fondement même, en fait, du cocktail, comme je pense qu'on le voit. C'est absolument tout tracé dans son cocktail, sachant que chaque ingrédient va avoir une influence. Si jamais on veut faire une infusion d'herbe, on va aller chez l'herboriste, et trouver exactement l'herbe dont on a besoin, la racine dont on a besoin. On commence à comprendre les racines qu'il y a dans ces apéritifs qu'on utilise depuis toujours. Les jus, donc nos fruits arrivent tous les jours, on les presse tous les jours, histoire qu'ils soient frais, et un jus de citron qui a été pressé 2 heures auparavant n'a pas le même goût quand il vient d'être pressé à l'instant. Toutes ces choses-là ont un impact. On va travailler avec des fruits de saison. On peut, en minimisant la taille de carte, optimiser des goûts en fonction des saisons et en faisant des roulements aussi.
Comme le chef qui va faire son marché le matin. Eric Frossard, c'est ce qu'on trouve à la Paris Cocktail Week aussi. Et quand on fait les masterclass, quand on va à la Cocktail Academy, c'est ce qu'on apprend aussi aujourd'hui.
Alors, sur les événements annexes, hormis l'offre cocktail à un tarif préférentiel, si on télécharge son pass pour un participant de la Paris Cocktail Week, on a mis en œuvre une offre qui, elle, est annexe au bar, où on la divise en deux. Il y a une partie éducative, où là, on peut apprendre à refaire des cocktails chez soi, parce qu'on se rend compte que c'est une demande très forte. Au final, les consommateurs consomment des cocktails, évidemment, dans les bars à cocktails, mais ils en consomment également chez eux, et ils sont en deux tout le monde d'apprendre à pouvoir en faire de manière qualitative, voire un peu professionnelle. On a mis en place une académie où tous les jours à la grande épicerie, on peut apprendre en une heure à faire un cocktail. C'est un cocktail plutôt classique et iconique, genre la margarita, le Bloody Mary, Vesper, d'autres. Et ça marche très bien. Les gens réservent. C'est pratiquement... on voit qu'il y a une forte demande. Et à côté de ça, on a mis en place des événements qui, eux, sont plus des passerelles entre la gastronomie et le cocktail. D'ailleurs, Maxime a été embarqué dans une de ses aventures. Maxime va faire un événement le premier lundi de la Paris Cocktail Week.
Le 23 janvier, donc le
25,
ça commence le samedi,
c'est le lundi. Pour peu de personnes, en fait, il va le faire avec Jacques Génin.
Et on
Chocolatier Rue de Turenne. Et on a appelé ça le combat de chef. En fait, chacun, de leur côté, se sont donné un défi. Jacques a donné un défi à Maxime en lui donnant 3 ingrédients et il doit créer un cocktail avec, et lui il va l'associer avec un chocolat, et en contrepartie Maxime lui va créer un cocktail et il devra créer une association avec ce cocktail.
C'est génial, ça.
Non, mais il y a un côté, c'est vrai, il y a beaucoup de jeux désormais dans cet univers.
Oui, mais c'est très
intéressant. Qui est un univers qui est même très confiné. C'est pour ça qu'il impressionnait certainement les Français qui n'avaient pas la culture non plus. Vous le disiez très bien. Les Français, quand ils avaient fini leur vie professionnelle, ils rentraient chez eux. Alors que les Anglo-Saxons, il y a toujours un sas de décompression entre la vie professionnelle et puis sa vie privée, qui est souvent, qui s'incarne dans les pubs, dans les bars. Mais aujourd'hui, c'est en train de complètement changer. Donc, du coup, il y a un côté. C'est vrai que les bars accompagnent bien, parce que ça devient des lieux, vraiment des lieux de vie. C'est pour ça qu'on consomme véritablement, je crois, de plus en plus avec modération. Peut-être moins, mais mieux.
Ça coûte combien un cocktail chez vous? Parce qu'il y a ça aussi, on se dit toujours, ah, les cocktails, c'est hors de prix. Au Gravity, Rudy Vinaigrier.
Entre 11 et 12 euros.
D'accord. Et à l'expérimental?
Entre 13 et 14.
D'accord. Il y a une petite battle.
Vous avez raison. On se rend compte que...
C'est un prix,
fait,
quand même.
De toute façon,
on vient de comprendre pourquoi aussi, vous expliquez.
Et par rapport à l'année dernière, on s'est rendu compte que justement, avoir une offre avec un prix préférentiel sur une période donnée dans la journée, ça ouvre les portes à certains consommateurs qui n'ont pas l'habitude de rentrer dans ces bars à cocktails, parce que justement, ils considèrent que c'est hors de leur budget et ils préfèrent consommer les choses moins chères, comme la bière, le vin.
Mais enfin, au bout de 6 bières, c'est
oui, un cocktail. Ils ne le voient pas obligatoirement comme ça. Et justement, les faire rentrer dans cette offre, leur faire comprendre qu'il y a une démarche qualitative avec un vrai travail derrière qui prend du temps, de la main-d'œuvre, une mise en place, ils peuvent comprendre, en ayant vraiment l'expérience, qu'il y a une vraie qualité derrière et que c'est un bon moment à passer également.
Michael, j'aime pas le mot, vraiment, j'aime pas l'idée de la French Touch, parce que je crois que c'est aujourd'hui désavoué, mais on le disait en début d'émission avec vous tous, aujourd'hui, Paris est une vraie scène de la mixologie, le monde entier veut ouvrir un bar à Paris, certains grands barman étrangers viennent officier à Paris, vous-même vous formez, vous gagnez des concours, est-ce qu'il y a quand même une touche parisienne? Alors dans chacun de vos bars, c'est de plus en plus le jeu de la singularité, il faut vraiment trouver son style, selon l'esprit qui vous anime, mais est-ce qu'on pourrait parler d'une touche parisienne du cocktail, et si oui, elle s'incarnerait comment? Ce qu'ils ne savent pas faire, par exemple, nos amis italiens, anglo-saxons, scandinaves.
Je pense pas, enfin, en tout cas, c'est mon opinion, je pense pas qu'il y ait vraiment une touche purement parisienne. On s'inspire tellement.
Sauf la casquette,
touche,
quand même.
Sauf la casquette. Il y a
la télé, il y a même la gavette parisienne.
On essaye.
Il faut.
Un petit peu, quand même. Mais aujourd'hui, on se mélange tous tellement, on a tellement l'opportunité de partager, que ce soit via Internet ou via des voyages. Maintenant, je veux dire, en tant que barman, on arrive à voyager super facilement. Enfin, comme un fan de restaurant, on va bouger un week-end juste pour tester un bar ou un restaurant. On partage énormément, on s'inspire tous plus ou moins de ce que font les collègues à l'étranger ou dans les villes d'à côté. Je sais pas, je pense que c'est vraiment les barman eux-mêmes qui ont chacun leur touche. Alors après, oui, il y a peut-être des produits qui sont plus mis en avant dans certains pays que dans d'autres. On est tous pareils, assez fiers de nos racines et envie de les développer. Mais j'ai pas l'impression qu'on est spécialement... Quand on regarde aujourd'hui, le panel est tellement large.
En tout cas, ce qui est sûr... Maxime Potfer, votre avis là-dessus?
Oui, je suis complètement d'accord. Je pense, cela dit, que la scène de bar parisienne, elle... elle a évolué assez rapidement, elle a grandi, elle a pris de l'importance et aussi elle a gagné de la reconnaissance au niveau des autres pays. Ça se doit aussi, je pense, à ce format. Tout le monde a travaillé ensemble à un moment. Tout le monde se connaît. Il y a beau avoir plusieurs bars, il n'y a pas forcément de concurrence ou de concurrence malsaine. Donc c'est quelque chose qui va vraiment nous tirer vers le haut. On essaye quelque chose, on a un doute, on va aller voir un collègue, mais qui a un autre bar, donc pas forcément un collègue direct. Mais on sera toujours accueilli avec des bons conseils ou de bonnes idées. C'est ce qui nous tire vraiment vers l'avant.
Et bah voilà, donc il faut tester tout le monde.
Ouais, on a commencé l'émission avec vos lieux et vos quartiers. Mmh. C'est vrai que ce qui fait peut-être la touche parisienne, c'est d'abord, parce que c'est ça aussi un bar. C'est ouvert sur un quartier, sur un public, sur des lieux. Et je trouve qu'il y a vraiment maintenant un style du bar parisien. Je parle pas simplement des cocktails et de ce que vous faites, mais de l'ambiance. C'est ça qu'on ne retrouve pas véritablement ni à Manhattan, ni à Brooklyn, même si tout ça s'infuse, il y a vraiment un style parisien. Donc, c'est des lieux.
Allez tester.
Allez tester, vous
pendant
pouvez même boire de l'eau.
Paris Cocktail Week.
Aussi.
Vous avez le site internet pour
les
vous inscrire, pariscocktailweek.fr. C'est du 23 au 30 janvier. Sinon, Michael Mas, merci beaucoup, Eric Fossard. Michael Mas, on vous retrouve donc normalement au Gravity Bar. C'est
tout
44 rue des Vinaigriers dans le 10e arrondissement. Et Maxime Potfer, de temps en temps, vous êtes à l'Expérimental Cocktail Club. Quand
le
vous n'êtes pas au Maquis,
je
quand
suis
vous
à
n'êtes pas au
Club.
En tout cas, on vous donne l'adresse.
La journée commence dès 16h, il faut faire les jus.
Rue Saint-Sauveur dans le 2e arrondissement de Paris. Merci beaucoup à tous les trois. Allez, restez avec nous. Good Lux Paris continue dans un instant.
Avec BFM Business, ajoutez une étoile à votre week-end. Good Lux Paris, l'édition du week-end. Karine Verniolle et Emmanuel Rubin.
Allez, dans Good Lux, c'est l'heure de partir en voyage. Mais auparavant, quand même, on voulait s'offrir un dernier petit verre avec Emmanuel Rubin. C'est l'heure des livres de la semaine. Parce qu'en matière de cocktail, Emmanuel, alors là, il y a foison. Hein.
Nouveau filon éditorial. Vous savez, sur l'art de vivre, il y a quelques années, vous aviez beaucoup de livres de cuisine qui sortaient. Il y en a toujours. Beaucoup de livres autour de l'univers du vin, parfois des alcools. Il y en a toujours. La pâtisserie, depuis quelques saisons, mais alors depuis deux ans, ça correspond bien à l'émission. Je crois qu'il n'y a pas une grande maison d'édition dédiée à l'art de vivre, de Flammarion à la Martinière, Duchesne à Marabout, qui ne sortent une ou deux fois par des livres de cocktails.
Alors, ceux du moment.
Alors moi j'aime beaucoup le livre de Julien Esco. Julien Esco, c'est vraiment une des stars de la mixologie française. Pour la petite histoire, vous savez, les barmans, on l'a vu, ils aiment bien faire des concours. Alors lui, il est bardé de coupettes, champion de France, champion du monde. On peut le voir officier à Paris du côté du bar Bâton Rouge où il est associé à certains biolatos que nous avions reçus dans cette émission il y a quelques temps. Le bar très réussi du côté de Pigalle. Et là, son bouquin Cocktail Nao. Alors bien sûr, c'est un livre de recettes de cocktails, mais la bonne idée, c'est qu'il va raconter que le cocktail, c'est une saga, une histoire et des styles. C'est-à-dire qu'il a exhumé toutes les recettes parmi les plus célèbres et parfois les moins connues qui ont fait l'histoire des cocktails. Alors il remontait, j'allais dire, aux origines du cocktail, on va dire, allez, au début du siècle dernier. Et là, il reprend les uns après les autres. Certains, il les revisite. Alors il y a des cocktails de 1920, d'une rare modernité aujourd'hui, des cocktails des années 30, 40, l'âge d'or du genre, des années 50, 60, jusqu'à les grandes créations contemporaines, signées de Julien Esco ou de quelques-uns de ses collègues. Et à chaque page, comme ça, vous avez vraiment la naissance d'un style. L'histoire de ce cocktail, c'est une sorte d'encyclopédie vivante. C'est très bien fait. Et surtout, il a un petit talent véritablement à faire des recettes courtes, à les exprimer avec peu de mots. Et vraiment, on se dit, c'est très difficile en fait de faire un bon cocktail parce qu'il faut vraiment avoir la main, la touche, le dosage. Mais là, on a envie de se lancer. Très, très belle iconographie. Et c'est vrai que c'est réalisé de manière très contemporaine. Mais il y a une petite touche 50s qui va bien en termes de typo, en termes de maquette, avec l'esthétique des cocktails en général. J'aime beaucoup.
Alors, et c'est aux éditions La Martinière, Cocktail Nao de Julien Esco. En face, vous avez Cocktail, tout simplement, au pluriel, et c'est Maxime Hirst. Maxime Hirst, lui aussi, il est bardé de diplômes de barman. Il officie au Bristol depuis 2012. Il a été le premier barman meilleur ouvrier de France, quand même, en 2011.
Elle est rare, meilleur ouvrier de France du genre.
Exactement. Et donc, c'est aux éditions Solar, son bouquin, et il est passé par le George V. C'est vraiment un barman de palace, d'hôtel, mais il l'assume complètement. Et alors, pareil, hein, ce sont essentiellement des recettes de cocktails. Allez, je vous en livre une comme ça, une de ses préférées. C'est un petit short drink à base de camomille, de miel. Alors lui, de miel issu des ruches de Bristol et de bourbon. Voilà, tout ceci toujours à bien consommer avec modération.
Mais ce qui est intéressant dans son ouvrage, c'est que ce sont des cocktails personnels, signature. Voilà. C'est un peu comme les livres de chefs. Vous savez, les chefs, parfois, ils font vraiment leurs recettes personnelles. Et puis, il y a ceux qui racontent un petit peu, qui revisitent les grands classiques. Lui, là, c'est vraiment des cocktails très personnels. On l'avait reçu aussi dans une émission dédiée au Bristol. C'est vrai qu'il aime, lui, les infusions, travailler avec des matières un peu inattendues. Vous parliez là du miel. C'est vrai qu'on le voit pas si souvent dans les cocktails. Il va faire aussi des infusions parfois à base de de tabac, c'est étonnant. Il aime bien aussi prendre des plantes, vous le disiez, la verveine. Là, on est vraiment dans une recette de cocktail très personnelle. J'aime encore beaucoup. En revanche, celui-ci,
en
j'aime
nettement
moins.
Je sais que vous allez détester, mais comme il y a eu pour la pâtisserie tous les livres-objets, et ben voilà, ben maintenant, vous avez aussi pour la mixologie, pour les cocktails, les petits livres-objets. Celui-là, c'est le manuel de mixologie. Petit, précis, indispensable à l'amateur de cocktail. Évidemment, c'est pas français, c'est Dan Jones. Mais vous avez le petit objet qui va avec.
Gadget,
et c'est
bon.
Achète pratique qui fait ça. Voilà, bon.
Vous savez, ça me rappelle quand on était jeune, enfin, quand j'étais jeune, on recevait, quand on était sage, un chimie 2000.
C'est un petit peu
un
ça.
Petit pâtissier. Généralement, on savait pas quoi en faire. Mais là, c'est un peu pareil. Mais bon.
Bon, allez,
pourquoi pas.
Ça. Allez, on arrête. On sort du bar quand même. Il faut un moment à tout. Et on part en voyage. Good Luxe d'ici d'ailleurs.
Good Luxe Paris, l'édition du week-end. D'ici et d'ailleurs.
Capucine Grabi, bonjour.
Bonjour Karine.
Le site mymoonspots.com qui pour ce début d'année 2016 s'est refait voilà. Une beauté.
Je me suis fait un petit coup de jeûne.
Ben oui, c'est ça.
Faire un petit cadeau de Noël.
Voilà, les hôtels, les expériences, on retrouve tout ceci
ça,
sur votre
site.
Ça
c'est parce que vous n'avez pas vu.
Eh oui.
Je parlais de vous.
Ah d'accord. C'est vrai que voilà, comme ça, dès qu'on l'ouvre, on part déjà en voyage.
Oh, c'était déjà un peu le cas avant, mais effectivement, j'ai voulu un peu épurer, faire la part belle aux photos, rajouter des nouveaux services. Voilà, je vous en dis pas plus, mais ça a été un travail de titan pendant 4 mois. Et merci de mettre en avant et merci de remarquer qu'il y a du travail derrière.
Voilà, mymoonspots.com. Et en attendant, nous, on a la chance d'avoir Capucine Grabi régulièrement dans Good Luxe Paris. Donc, elle nous fait partager quelques expériences. Et vous allez nous emmener aujourd'hui à Stockholm. Mais pas exactement à Stockholm, d'ailleurs.
Alors, juste à côté de Stockholm, vous savez que Stockholm, c'est l'île aux 14 îles, mais que l'archipel de Stockholm, cette petite pépite, elle regorge de 30 000 îles.
30 000
hein. 30 000 îles. Alors, il y a des îles habitées, il y a des îlots, il y a des récifs, mais au total, ça fait quand même 30 000. Et il y a plein d'îles qui sont juste à côté de la ville de Stockholm, sur lesquelles les Suédois habitent. C'est un peu notre Saint-Germain-en-Laye, notre Montfort, la Maurie nationale. Et ils se rendent tous les matins en bateau
mais
à Stockholm pour
habitées.
Travailler. Alors, elles sont toutes habitées et il y a un Norvégien qui est notre héros du jour, on va l'appeler Torkil, c'est son nom, qui a eu l'idée de créer un lodge en Suède avec des tentes façon safari parce que sa femme est designer et qu'elle avait vécu au Botswana. Et donc, il s'est mis en quête de trouver une île pour faire son hôtel lodge au large de Stockholm. Donc, il a cherché, il a trouvé que des îles habitées. Et puis, il y en avait une qui était inhabitée. Donc,
il a planté le drapeau norvégien
du
côté de Stockholm, ils ne vont pas apprécier. J'adore, comme tous les Scandinaves, mais ils aiment bien se détester aussi.
Donc, il s'est baladé et il s'est rendu compte que l'île était squattée par 2 daims, mais qu'elle semblait déserte. Et puis, il a mené un peu plus d'investigations. Et là, il s'est rendu compte qu'elle appartenait à la Marine nationale. Cette histoire est un peu rocambolesque, mais en fait, sous cette île, il y a des dizaines et des dizaines de torpilles qui restent de la Seconde Guerre mondiale, parce que finalement, c'était la plateforme, le camp de base de la fabrication de toutes les torpilles pour la Seconde Guerre mondiale. Donc, cette île, elle appartient toujours à la Marine nationale.
Il y a toujours les torpilles, parce qu'il
y a toujours les torpilles. Et quand on va dans l'île, sur l'hôtel en question, qui s'appelle donc Island Lodge, on peut voir d'anciennes torpilles et toutes ces usines de fabrication.
Ça craint rien.
Moi, en tout cas, j'ai pas sauté avec.
Non, mais c'est bien de le préciser quand même.
Donc lui, il s'est pas avoué vaincu et il a téléphoné une fois par semaine à la Marine nationale en disant: est-ce que vous pouvez me faire un bail locatif? Est-ce que vous pouvez me faire un bail locatif? Et au bout d'un an, ils ont craqué et il a pu donc installer ces fameuses tentes. Pour ceux qui nous regardent à l'écran, vous voyez, c'est des tentes de safari, mais façon un peu igloo qu'il est allé dénicher aux États-Unis. Et donc, on peut dormir sur cette île. Il y a 8 tentes, 2 daims en liberté,
un
sauna.
C'est ça, le petit sauna.
Alors,
là,
le sauna, j'ai testé.
À l'extérieur.
Donc, le sauna à l'extérieur, au milieu de l'eau. On sort de là, on se trempe dans l'eau absolument glacée. On était au mois de juillet, l'eau est à 16. Enfin, on y va quand même, on retourne dans le sauna. Voilà, c'est une sorte de symbiose
du monde.
Avec la nature.
On peut faire des mouvements pendulaires comme ça entre cette île et Stockholm quand même, si on reste 4-5 jours? C'est pas trop loin?
Ah non, bah c'est une demi-heure.
Une demi-heure.
Une demi-heure de bateau.
C'est ça, l'art de
une
vivre.
Une demi-heure de bateau. C'est totalement l'art de vivre.
Suédois, enfin, des gens de Stockholm.
Ouais,
soit ils vivent dans des îles, soit ils ont tous des cabanes. Et généralement, au printemps, ils quittent et ils s'en vont comme ça dans leur cabane le week-end.
Là, vous êtes relativement près de Stockholm quand même. Hein. Il y a des îles qui sont beaucoup plus loin. On en a parlé dans une précédente émission, qui sont carrément plus loin du côté
de la mer
Baltique. Et là, voilà, il n'y a rien.
C'est bien, ça donne envie.
À 1h, 1h30.
Et donc, l'expérience, rapidement, quand on est dans cette île.
C'est pas du tout là. Là, on est à 200 km de Stockholm. On peut le coupler, mais c'est un autre moment. Que les choses soient dites, le safari, girafe, éléphant, lion est complètement has-been. Je vous apprends quelque chose aujourd'hui.
Okay.
Aujourd'hui, pour être un peu dans le vent, trendy, il faut aller chasser le beaver.
C'est quoi le beaver?
Le castor.
Vous savez, Yes, le castor. Voilà, la chasse au castor, il y a rien. C'est le nec plus ultra en Suède aujourd'hui. Alors, est-ce que c'est à cause de la toque de David Croquette qui a bercé mon enfance? En tout cas, ça se passe à 200 km de Stockholm. Ils sont fous de nature et donc ils adorent le beaver. On part à la tombée de la nuit sur un lac qui transpire un petit peu le brouillard, sur un petit zodiaque, et on cherche avec des jumelles autour du cou cette espèce d'animal.
Alors, le chasse photo ou le chasse
non,
fusil?
Photo. Il y en a beaucoup en Suède.
Mais ils les adorent. C'est parfois un peu nuisible.
Tout à fait. Oui, bah, quand on voit comment ils peuvent couper les troncs d'arbres. Bon, c'est une expérience très originale. Moi, j'ai bien aimé le premier castor, le deuxième, le troisième. Au bout d'une heure, j'en avais déjà vu quatre. Bon, je trouvais ça bien. Eux, ils ont passé la soirée jusqu'à minuit à traquer le castor. Ce qui est sympa, c'est la communion avec la nature, les paysages, ce lac. Voilà, c'est la Suède, c'est extraordinaire.
Tout ceci sur donc le nouveau site
mymoonspot.com, concierge de luxe pour vous et vos émotions hors normes.
Voilà. Waouh, la baseline, merci
pas
beaucoup.
Pas mal,
Lucie Gravy. Allez, très rapidement, c'est l'agenda.
Goût de luxe Paris, l'édition du week-end, l'agenda.
Très, très, très rapidement, Emmanuel, une info.
Lequel? Le bar, le restaurant éphémère? Allez, un bar, puisqu'il va ouvrir d'ici quelques jours, encore un dernier pour la route. Ça sera rue Ticton, Paris, 2e arrondissement, orchestré par un certain Yulin Lee. Yulin Lee, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour la cause nippone à Paris. Il n'est pas complètement japonais, il a un peu de sang japonais, mais pas simplement. Alors il a un restaurant, l'un des rares restaurants japonais étoilés à Paris, le Sola dans Rive Gauche. Et là, il ouvre un saké bar. Ça s'appellera, on n'a pas encore vraiment le nom, mais normalement la maison du saké. Et alors, ce sera vraiment vécu à la manière d'un club. Non seulement, bien sûr, il y aura un bar avec beaucoup de masterclass, de dégustation, tous les plus grands crus de ce qu'est un vin. Parce que le saké, c'est d'abord et surtout un vin, seront présentés. Et puis aussi, il y aura des animations. Et parfois, le soir, on sera quand même presque dans un club, avec tout ce que ça peut accompagner de vapeur, un petit peu.
La maison du saké de Yulin Lee, ça sera 11 rue Ticton dans le 2e arrondissement. Et très rapidement, je vous en parle aujourd'hui parce que ça a lieu le 25 janvier. On va encore boire un verre, mais en fait, c'est pour accompagner le fromage, puisque ce sera le fameux Cheese Day, le lundi 25 janvier au soir, au pavillon Le Doyen à Paris, à la découverte des fromages de France, mais aussi du monde. Des grands vins, des spiritueux, les fromages, on peut aussi les accompagner de thé. C'est le directeur général de l'agence transversale Jean-François Hesse qui est à l'initiative. On y retrouve aussi Yannick Aleno, on est quand même chez lui, au pavillon Le Doyen. On y retrouve aussi Frédéric Cardan du 39.5, donc des chefs en tout genre, des producteurs bien sûr de fromage, des sommeliers associés. Il y a là aussi des masterclass, des animations, tout ce qu'il faut autour du fromage. Voilà un des nouveaux rendez-vous après avoir parlé de la Cocktail Week. C'est le Cheese Day en bon français, billetterie en ligne, withevent.com/cheese-day. Je vais y arriver. Merci beaucoup Emmanuel, Rubin. On se retrouve la semaine prochaine, mais Good Luxe n'est pas tout à fait terminé. Le best-of de Good Luxe Paris dans un instant.